le journal de France Culture présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour Marc et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, un Grenelle des professeurs à l'horizon du mois d'octobre. Le gouvernement promet aux enseignants des hausses de salaire, décryptage et explications dans un instant d'Hakim Kasmi. La classe politique allemande scandalisée après la tentative de siège du Parlement hier lors d'un vaste rassemblement anti-masques. Des anti-masques en voie de radicalisation selon le président allemand. Frank-Walter Steinmeier, David Philippot nous appelle de Berlin. La pandémie avec une inflammation inégalée du nombre de cas de coronavirus en Inde. L'Inde dont les autorités ont contre toute attente décidé d'assouplir les restrictions appliquées aux populations. Correspondance de New Delhi de Combastin qui, dans la rue biélorusse ce dimanche de manifestation de l'opposition, élément de réponse avec à Minsk la chercheuse Yula Shukan. Et puis à l'affiche de la face cachée du Globe signée ce dimanche Nadine Epstein, Patrice Franceschi, auteur de l'ouvrage « Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous », récemment publié chez Gallimard. Le ministre de l'Éducation nationale n'ambitionne rien de moins qu'une, je cite, « transformation profonde du système éducatif », vante les mérites de la gestion des ressources humaines de son mandat dédié, et je cite encore, à la place des enseignants dans la société. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Mathieu Laurent.
Hakim, Jean-Michel Blanquer annonce un Grenelle des professeurs avec pour priorité une hausse des salaires pour tous les enseignants, Hakim ?
La réponse est non, du moins pas pour l'instant. En effet, le ministère travaille depuis janvier sur la hausse des salaires des enseignants. L'objectif était de compenser les pertes liées à la réforme des retraites. Initialement, l'enveloppe prévue d'ailleurs était de 500 millions d'euros, mais la crise sanitaire est passée par là. Jean-Michel Blanquer annonce désormais ce matin 400 millions d'euros. Du coup, dans un premier temps, ce sont surtout les jeunes enseignants qui vont débuter et qui ont des salaires très bas, qui vont surtout être augmentés. Une augmentation qui ira de 70 à 80 euros bruts par mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un enseignant qui débute sa carrière n'est qu'à 1300 euros par mois alors qu'il a un bac plus 5, ce qui fait de nos enseignants les moins bien payés d'Europe. Il faut savoir aussi que Jean-Michel Blanquer annonce ce matin une loi de programmation pluriannuelle en termes d'augmentation, ce qui veut dire que cela dépendra aussi de la prochaine majorité politique qui sera au pouvoir en 2022.
Et Hakim, à deux jours de la rentrée des élèves, venons-en cette fois aux annonces strictement sanitaires de la part du ministre d'Éducation.
Alors après le masque obligatoire pour les enseignants et ceux dès la maternelle, ainsi que pour les élèves à partir de 11 ans et partout, y compris dans la cour de récréation, Jean-Michel Blanquer indique ce matin qu'en cas de crise grave de la pandémie, comme on a pu le voir pendant le confinement, on pourra avoir recours aux classes partagées avec des demi-groupes, ce qui risque de poser des problèmes de place, car les établissements ne sont pas extensibles, notamment au lycée, où il y a déjà 35 élèves par classe. À cela, il faut ajouter la réforme du bac, avec les spécialités qui vont de 8 à 12 en fonction des établissements. Impossible d'éviter le brassage des élèves, même si pour l'instant celui-ci est suspendu à l'Agence régionale de santé et au préfet. Quant aux cours à distance, ils ne pourront pas forcément être assurés par les mêmes enseignants, ces derniers devant également faire du présentiel, ce qui n'est pas forcément bon au niveau pédagogique et surtout pour la continuité pédagogique des élèves, alors qu'une partie d'entre eux ne sont déjà plus revenus au lycée depuis 6 mois. Rappelons Mathieu, que depuis la pandémie, près de 5% des élèves ont décroché les chiffres qui viennent du ministère.
Merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. Hakim Kasmi, dans une tribune publiée hier par Le Parisien, des médecins s'inquiètent justement du manque de moyens de protection mis à la disposition des élèves et des professeurs en France, non sans prendre en considération ce qui s'est passé en Allemagne, où, soulignent ces praticiens, ils ont ouvert les écoles et immédiatement, ils ont dû mettre en quarantaine des dizaines et des dizaines d'élèves parce que l'infection repartait. En Allemagne, où l'hostilité aux mesures de restriction s'accroît et au lendemain d'une importante manifestation de corona-rebelles à Berlin, le gouvernement hausse le ton et condamne les violences qui ont conduit certains manifestants à tenter d'assiéger le Reichstag. David Philippot.
Les photochocs font la une des journaux ce matin, les drapeaux du Reich, noir, blanc, rouge ou des symboles nazis affichés sur les marches du Parlement. Dans l'édition dominicale du journal Bild, le ministre de l'Intérieur juge inacceptable que des extrémistes et des fauteurs de troubles tentent de pénétrer de force dans le bâtiment du Reichstag, le centre symbolique de notre démocratie libérale. Consternant, insupportable, honteux, choquant, la classe politique condamne unanimement l'acte perpétré par cette troupe. Parmi eux sont identifiés des identitaires, des révisionnistes, des néo-nazis et même une figure connue de l'alternative pour l'Allemagne, un parti représenté au Parlement qui siège donc dans ce bâtiment incendié par les nazis en 1933. Sur les réseaux sociaux et dans les journaux, il est également rendu hommage aux trois policiers qui ont défendu l'accès du bâtiment le temps que les renforts arrivent. Trois policiers remerciés pour avoir fait front, je cite, face aux ennemis de la démocratie.
David Philippot à Berlin, l'Inde et le paradoxe n'est pas mince. L'Inde assouplit ses restrictions alors que ce dimanche, le deuxième pays le plus peuplé de la planète, avec 1,3 milliard d'habitants, a annoncé avoir enregistré 78 761 cas en 24 heures. La reprise économique à tout prix, à tout craint. C'est une correspondance de New Delhi de Com Bastin.
Ni le Brésil, ni les États-Unis n'avaient enregistré une telle envolée. Avec plus de 77 000 nouveaux cas journaliers détectés depuis jeudi, l'Inde connaît la plus forte hausse jamais enregistrée depuis le début de la pandémie. Au total, le sous-continent compte 3,4 millions de personnes infectées et 63 500 morts. Il est difficile de prévoir quand l'épidémie marquera le pas. Sita Brasinha, épidémiologiste à l'Institut des sciences mathématiques de Chennai, travaille sur le taux de reproduction du virus. Lorsque ce chiffre tombe en dessous de 1, la maladie commence à ralentir sa croissance.
Nous étions à 1,8 fin mars et ce chiffre est graduellement descendu à 1,05. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'épidémie est terminée. Par ailleurs, il est possible que les statistiques soient inexactes parce qu'un grand nombre de personnes contaminées ne sont même pas testées.
Selon le Center for Monitoring Indian Economy, 18,9 millions d'emplois salariés ont été perdus depuis le confinement. Le gouvernement central tente donc de soulager l'économie ravagée du pays. Le 1er septembre, les métros devraient être à nouveau autorisés. Ces relâches pourraient cependant conduire à une augmentation plus importante du virus. La rentrée s'annonce décisive pour l'évolution de la pandémie en Inde.
Le centre d'accueil d'urgence de Lampedusa héberge 1160 réfugiés, 1160 miraculés, soit 10 fois sa capacité maximale. La petite île italienne a vu venir la nuit dernière 370 nouveaux migrants qui voyageaient sur un vieux bateau de pêche, tandis que le navire humanitaire Sea-Watch 4, transportant désormais 350 personnes, attend un port de débarquement. Lampedusa, point névralgique, sombre symbole des désaccords entre pays membres de l'Union européenne de politique migratoire en matière de politique migratoire ainsi que les instrumentalisations politiques à l'échelle des États. Ce matin, les 370 personnes qui ont mis pied à terre à Lampedusa ont été huées par des membres du parti d'extrême droite, la Ligue. En Biélorussie, l'opposition ne désarme pas et appelle à des manifestations ce dimanche dans tout le pays. Il s'agit encore et toujours de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier et la réélection qu'il qualifie de frauduleuse du président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 et réélu avec 80% des voix. Qui, pour défier le pouvoir dans la rue, nos confrères de France Info ont joint à Minsk Yulia Choukan, maîtresse de conférences en études slaves à l'université Paris-Nanterre, sociologue, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui donc, pour ne pas céder à la répression ?
On voit toutes les catégories sociales participer, à la fois des très jeunes aux personnes âgées, mais bien évidemment là, cette jeunesse urbaine connectée, constitue le noyau dur de cette mobilisation. Je pense que le pouvoir est resté extrêmement aveugle aux changements que la société biélorusse a connus depuis ces dernières années, pour cause notamment aussi interdiction de sondages et de l'absence de sondages indépendants qui auraient permis effectivement de sentir cette volonté de changement auprès des personnes âgées de 25 à 35 ans, souvent professionnels, indépendants vis-à-vis de l'État et surtout qui aspirent à beaucoup de changements dans leur pays. Mais ce qu'on voit, c'est que la police durcit aussi le ton en ce moment et les interpellations ont repris, notamment les hommes en fait. Dans les manifestations, les femmes sont laissées libres et on est avec les hommes. Et ensuite, ils encourent tous ce risque d'amende pour participation à des actions non autorisées par le pouvoir.
Mais est-ce que les ouvriers se mobilisent eux aussi à nouveau dans cette contestation pacifique, hein, vous l'avez souligné?
Bien évidemment, dimanche dernier, par exemple, lors de cette grande mobilisation, on voyait plusieurs groupes d'ouvriers participer. Mais j'ai l'impression que le pouvoir craignait vraiment cette mobilisation de ce segment-là, le segment de la société sur lequel il s'est appuyé auparavant. Et donc les pressions étaient extrêmement dures, à la fois les menaces de licenciement, mais aussi menaces sur les membres des familles, ce qui a empêché finalement ce mouvement de grève. On s'attendait à une grève massive dans les industries et on a vu les premiers signes de mise en œuvre de cette grève. Mais à cause de la contre-offensive du pouvoir, j'ai l'impression que le mouvement est ralenti, même si, encore une fois, on voit aussi des ouvriers qui se manifestent, en tout cas en tant qu'ouvriers, qui viennent en bleu de travail pour signaler leur appartenance à une société ou à une grande industrie ou au chemin de fer.
Voilà des propos recueillis par Édouard Marguier. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Malgré des tensions et quelques incidents, les combats en Syrie se sont raréfiés. Que sont devenus les Kurdes de Syrie qui, sur le terrain, ont chassé le groupe djihadiste État islamique? Après avoir aidé la coalition internationale, les Kurdes de Syrie sont tombés dans l'oubli. Ils ont été délaissés, voire trahis par les Occidentaux. Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous est le titre de l'ouvrage de Patrice Franceschi. Christian Chéneau l'a rencontré.
La tragédie des Kurdes est à la fois la nôtre, parce que nous avons combattu ensemble le même ennemi. Et maintenant que nous croyons avoir gagné contre Daesh, nous les abandonnons alors que tout n'est pas fini. Et d'autre part, parce qu'ils sont tombés mystérieusement dans le trou noir de l'histoire, dans le trou noir de l'information. Ils ont disparu des radars, comme on dit. Alors que rien n'est joué, que tout est encore en jeu, et que abandonner les Kurdes aujourd'hui, pour l'avenir, c'est le retour des djihadistes, c'est le retour de Daesh sous un autre nom, et donc le retour du terrorisme en France. Par conséquent, nous avons commis une faute à la fois morale, en abandonnant les Kurdes, il y a à peu près un an, au moment où les Turcs, avec leurs supplétifs djihadistes, ont attaqué les Kurdes. Nous avons abandonné nos alliés qui avaient combattu avec nous contre Daesh, et la fois faute politique, simplement parce que s'il y avait bien une chose qu'il ne fallait pas faire, c'était croire que la victoire était déjà à portée de main, alors que dans ces affaires-là, sont des luttes et des combats et des guerres sur le temps long.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Kurdes sont tombés dans le trou noir de l'histoire? Quels sont les ressorts de cet abandon?
Alors il y a, je crois, un grand mystère dans la tragédie kurde, une sorte de malédiction pour certains peuples qui fait qu'ils ne font pas l'actualité internationale au moment où il faut le faire. Le sous-titre de ce petit livre chez Gallimard, pour moi, dit tout. Ce que les avoir abandonnés dit de nous. C'est-à-dire que les Kurdes, sans leurs alliés occidentaux, en qui ils croyaient profondément, ne peuvent pas faire grand-chose face à la fois au monde djihadiste dans son ensemble et aux États de la région, à commencer par les Turcs, qui veulent leur disparition absolue. Avec nous, ils ont pu vaincre Daesh et ils ont, je rappelle, payé quand même le prix fort. 38 000 tués et blessés contre Daesh. La France a perdu un seul soldat pendant cette guerre. Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis une cinquantaine d'années à nous autres occidentaux pour que nous ne voyions plus que défendre les Kurdes, nos amis, nos alliés, contre nos ennemis communs était aussi essentiel que n'importe quelle guerre pour la préservation de nos libertés et de notre sécurité. Ce qui nous est arrivé, c'est la dernière partie de ce livre, a été peut-être pour moi ce qu'il y a eu de plus excitant à écrire par rapport au thème avec les Kurdes. Simplement parce que faire une cartographie de ce qui nous est arrivé depuis une cinquantaine d'années sur notre masochisme occidental constant, sur l'érosion de notre volonté de vivre libre, sur la domination complète sur nos vies du consumérisme. Tout cela est une explication au fait que nous baissons les bras quand il faut faire trop d'efforts pour défendre nos libertés.
Est-ce que les Kurdes n'ont pas été aussi victimes de la géopolitique? Les Américains, les Turcs, etc. Il y a une espèce de réelle politique avec les Russes aussi?
Ils sont victimes, depuis toujours, de la réelle politique qui fait que ce plus grand peuple du Moyen-Orient sans État est toujours tiraillé entre les volontés hégémoniques ou impérialistes des États régionaux. Simplement, dans l'affaire des Kurdes de Syrie contre l'État islamique, il y avait réellement un ennemi commun qui, à Raqqa, avait planifié des attentats en France et qui avait fait que nous étions intervenus et que nous voulions que Raqqa disparaisse de la surface du globe pour qu'il n'y ait plus de terrorisme chez nous. Donc on aurait pu penser que, pour une fois, notre volonté de nous défendre en commun était totale. Ça a été le cas pendant 5 ans, mais au moment où Raqqa disparaît, au moment où l'État islamique est décrété cérébralement mort, eh bien nous détournons le regard et nous laissons les États régionaux reprendre la main contre nous alors que rien n'est terminé.
Patrice Franceschi, auteur de Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous, paru aux éditions Tract Gallimard. Les manifestations pro-démocratie sont quasi quotidiennes en Thaïlande et la répression aussi. Les étudiants qui réclament la démission du Premier ministre, la dissolution du Parlement et une révision de la Constitution sont arrêtés et poursuivis pour sédition. Ce que dénonce Human Rights Watch qui demande aux autorités de Bangkok d'arrêter de bafouer les lois au droit et à la liberté d'expression. C'est en musique que défilent les Biélorusses contre la réélection du président Loukachenko. Les protestataires ont repris à leur compte une chanson catalane écrite par Lluís Llach contre la dictature du général Franco. L'estaca, le pieu qu'un grand-père n'arrive pas à faire tomber. En 1979, ce sont les Polonais du syndicat Solidarność qui en ont fait leur hymne contre le régime pro-soviétique. En 2011, les Tunisiens l'ont relancé en arabe. L'estaca a été chanté en public en 1985 au stade du Football Club Barcelone.
Ainsi se referme la face cachée du globe de ce dimanche 30 août. Quelques mots du temps de l'après-midi, instable avec risque d'averse et toujours frais, avant l'arrivée d'une amélioration en cours d'après-midi par l'ouest. Ce journal a été préparé avec M. Le Chilly à la technique, Ludovic Auger.